Non, le gain, non, je ne sais pas.
C'est en dehors. Non, tu penses qu'il vaut mieux pas en parler?
Non, c'est... que je peux risquer de faire des bêtises.
Alors d'accord, d'accord. Donc même si...
Oui, non, non.
Ce ne sera pas utilisé.
Non, en fait, j'ai été contacté avec Lucienne. Oui. Est-ce que tu veux présenter le film réclusienne, parce que le producteur est quelqu'un de Sainte-Foy-la-Grande.
Oui.
Voilà.
Oui.
Et moi j'étais un peu surpris parce que je ne suis pas spécialiste de Marx, mais je ne suis pas non plus anti-marxiste. Donc ça a toujours été un peu ma position, bonne ou mauvaise. Hein. Et donc j'ai dit ben, pourquoi pas, mais je ne sais pas si je vais pouvoir entre guillemets assurer. On me demande de parler de l'anarchisme. Là, je pense que je peux dire des conneries, mais des conneries autorisées. Tandis que sur Marx, bon, le marxisme, je le connais mieux. Mais le Marx lui-même, ben, je ne suis pas un spécialiste. Et puis, non. Et puis, bon, ça s'est bien passé. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a véritablement une espèce de demande de radicalité. En fait, c'est ça l'intérêt du film aussi, j'en parlerai tout à l'heure. Et que par rapport à cette demande de radicalité... En fait, les personnes qui avaient dans la salle, il y avait deux types de personnes. Soit les anciens militants chevronnés qui ont commencé à se bouffer prendre la tête sur la coupure épistémologique, pas épistémologique, en fait, des choses totalement surannées. Soit des jeunes ou des personnes qui viennent à la politique. Et que, bon, ils n'ont rien à cirer des thèses de Marx par rapport aux Junéguiniens, etc. Et qu'ils sont intéressés vraiment par des interrogations, qu'est-ce qu'il faut faire pour essayer de changer de société. Et donc par rapport à ça, donc, du coup, je me suis senti légitime. Parce que ben, par rapport à ça, ce sont des interrogations qui vont bien au-delà, disons, de l'interprétation du jeune Marx ou du vieux, ou je ne sais pas quoi. Ce sont des choses qui sont totalement d'actualité. Donc je me suis dit, bon, bah, banco, j'y vais. Et je commence tout à l'heure et je ne sais pas ce que ça va donner.
Alors ça, il y avait un autre jeune.
Voilà, donc voilà. Disons, c'est ça. Et au fait, je me suis rendu compte que, bon, ça, c'est valable aussi pour les idées libertaires. Hein. Il y a véritablement une demande. Et donc, les gens, ils ne sont plus dans des écoles. Moi, je me rappelle, dans les années 70, ben... vous aussi, un petit peu. Bon, et si on ne connaissait pas tout Marx, Bakounine, Proudhon sur les bouts des doigts, mais on était considéré comme la dernière des tâches, quoi. On n'était pas légitime pour pouvoir parler. Et aujourd'hui, tous ces débats par le biais d'auteurs interposés, etc., ben tout ça, ça s'est totalement perdu en cours de route, heureusement. Et ce qui reste, par contre, ce sont des interrogations de base. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment s'organiser? C'est une prise de conscience aussi d'une société qui va mal, qui va de plus en plus mal, et que donc, comment on va faire pour la réformer? Et par rapport à ça, disons, cette interrogation est valable pour ceux qui viennent voir le film Le Jeune Marx, et valable aussi pour ceux qui suivent à la télévision le film Ni Dieu ni Maître de Tancrède de Ramonet. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les deux réalisations s'inscrivent dans un mouvement plus vaste, disons, où on s'interroge. Et donc par rapport à ça, moi je pense que il faut pas hésiter à participer à ces discussions et puis aussi faire part des expériences qu'on a pu avoir. Parce que bon, le gros problème, c'est pas de... j'ai dit tout à l'heure que je n'étais pas un anti-marxiste. Mais il y a eu tout un tas de choses qui ont été faites par des gens qui se réclamaient de Marx. Je veux dire, il faut vraiment laisser tomber. Je ne parle pas que du stalinisme. Donc là, ce n'est pas simplement un problème d'inventaire, droit d'inventaire, si on veut. Parce que ça, c'est valable aussi pour les anarchistes. Moi, je pense qu'il faut vraiment réfléchir, revenir aux fondamentaux. Ce que Marx voulait. Marx voulait détruire la société capitaliste. Et par là même aussi l'État, tel qu'il existe.
L'État et l'argent, c'était ces deux...
L'argent, je n'utiliserai pas cette expression, parce que l'argent est trop, ça, trop une formule un peu vague. Ça, c'est l'économiste qui donne. Non, disons, il voulait détruire l'État et le capitalisme, qui étaient les racines de l'exploitation et de l'aliénation. Mais cette exigence-là, on la retrouve pareil chez Marx, chez Bakounine. Et puis chacun, il cherche à la réaliser. Ils disent des choses intéressantes, ils disent aussi des conneries. Et chacun a pris parfois des chemins qui ont conduit dans des impasses. Marx n'a pas été suffisamment regardant, à mon avis, sur le problème justement de la dictature du prolétariat, sur le problème de l'existence d'un État transitoire qui aurait pu se transformer dans une dictature. Proudhon, lui, il a été trop confiant dans la possibilité de pouvoir en quelque sorte ruser avec la bourgeoisie. Donc, pour les uns et pour les autres, derrière cette exigence commune, concrètement, on s'aperçoit qu'à un moment donné, ils peuvent avoir dit ou écrit ou fait des bêtises. Donc, le problème, ce n'est pas d'opposer Marx à Proudhon, à Bakounine, etc. À mon avis, aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre ce qu'ils ont voulu faire, bien s'imprégner de cette nécessité, de cette critique radicale, et puis d'aller au-delà. C'est-à-dire, quand on voit s'il y a eu une impasse chez Bakounine, il faut laisser tomber cette impasse. S'il y a eu des impasses chez Marx, il faut les laisser tomber. Et surtout, ne pas continuer des grêles stériles d'école qui opposent les uns aux autres d'une manière artificielle. C'est-à-dire que, moi, Bakounine, c'est quelqu'un, bien évidemment, que j'apprécie, etc. Mais quand on lit, par exemple, sa conception de l'organisation secrète ou autre, moi, je reste scotché. Je veux dire, je ne peux même pas envisager une seconde de prendre ça au sérieux. Et quand on voit que Marx, qu'est-ce qu'il faisait dans la pratique, quand il faisait dans la pratique, il s'essayait aussi de pouvoir imposer son point de vue par des moyens qui n'étaient pas toujours loyaux. Donc là, pour moi, c'est des choses surtout pas à reprendre ou à réactiver. Et il faut surtout pas s'amuser à jouer, à inverser les rôles. Donc, ombre et lumière. Tantôt c'est Marx l'ombre, tantôt c'est Bakounine. Tout ça, ce sont des démarches, à mon avis, stériles. Alors, bien évidemment, moi je me suis toujours réclamé des idées anarchistes, et pas exclusivement libertaires. Donc pour moi, il y en a qui ont, entre guillemets, plus raison que les autres, bien évidemment. Mais je pense que c'est pas ça la chose importante. La chose importante, c'est pas d'avoir raison. Le problème, c'est de réussir à faire en sorte de contribuer, même un tout petit peu, à changer la société. Et donc, on peut avoir parfaitement raison sur toute la ligne d'un point de vue théorique. Si on n'est pas capable, ensuite, du point de vue pratique, à faire avancer les choses, ça sert à rien. Il y avait une phrase dans une lettre d'un socialiste libéral italien qui s'appelait Salvemini, qui l'adressait à son élève et anarchiste Camillo Berneri, Salvemini Berneri, et dans lequel il disait se définir républicain, ça ne veut strictement rien dire si c'est des imbéciles que nous on dénonce. Mais il faut bien voir que être révolutionnaire ou réformiste, ça ne veut strictement rien dire quand on est révolutionnaire et on est incapable de sortir une araignée de son trou. C'est la traduction, l'expression italienne, voilà. Donc on peut s'amuser pour dire qu'effectivement, théoriquement, c'était vraiment l'anti-étatisme de Bakounine était supérieur au pseudo-anti-étatisme de Marx, mais après qu'on a dit ça, est-ce que si on est incapable d'en tirer les conséquences pratiques aujourd'hui et avancer, ça reste quelque chose de stérile. On reste encore à une époque des petits drapeaux. Ce qu'il faut, c'est une pratique.
Il avait prévu la prévu. C'est à partir des théories de Marx qu'il prévoyait la bureaucratisation et la permanence de la dictature et non pas la disparition progressive.
Bien sûr,
l'État. Ça c'est théorique quand même. C'est à partir des lectures de Marx qu'il théorise ça.
C'est un petit peu plus compliqué. Alors justement, là-dessus, c'est pas Marx, c'est surtout La Salle qu'il critique. Et donc il prête à Marx des idées qui sont lassaliennes. Là-dessus, je pense qu'il y a une espèce d'accord du point de vue de la critique. C'est-à-dire qu'on peut ensuite reprocher à Marx de ne pas avoir été assez précis là-dessus. Parce que on peut sortir un siècle après tel passage inédit de Marx dans lequel il a contrer la critique que Bakounine peut faire, etc. Mais il faut bien voir que dans la critique de Bakounine connaissait bien Marx, mais pas forcément tout. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de projections des uns par rapport aux autres. Marx ne peut surtout pas encadrer Bakounine, c'est un russe, c'est un slave. Et donc il projette tout un tas de choses sur lui et Bakounine fait exactement la même chose. C'est un allemand, c'est un juif. c'est des choses terribles. Donc ils se prêtent vraiment des choses et ils ont un peu tendance à gaucher leurs idées. Or, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faut gommer les oppositions théoriques. Je dis exactement le contraire. Je suis en train de dire qu'on ne peut pas se limiter à mettre en avant ces oppositions théoriques. Et concrètement, dire que ce soit les idées de Marx ou que ce soit les idées de Lassalle, en attendant les monstres qui sont apparus, ont confirmé en plein les critiques de Bakounine. Ça, c'est un acquis. Il ne s'agit pas de le gommer. Au contraire, il faut le dire. Seulement, ce que je voudrais faire comprendre, c'est que, une fois qu'on a dit ça, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en rester là et puis ne pas avancer. C'est-à-dire que si on veut changer la société, ben on ne peut pas la changer tout seul. Donc il faut qu'il y ait un maximum de personnes et qu'il y ait tout un tas de personnes qui sont là, que de toute manière, ils ne voudront pas une dictature du prolétariat, justement, mais qui ne sont pas forcément convaincus de l'expropriation généralisée de la bourgeoisie ou dans le cadre d'une grève générale par les syndicats, etc. Et donc, essayer de convaincre un maximum de personnes, on ne peut les convaincre qu'à partir d'une, à mon avis, d'une prise de conscience de la nécessité de ce changement radical de la société, en dehors des écoles. Donc, mais non pas en dehors des idées. Je ne sais pas si, oui, si vous oui, voyez oui. La différence. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas du tout en train de nier l'importance de la critique de Bakounine. Au contraire, elle est capitale. Et comme d'autres anarchistes, etc. Donc tout ça, il faut le garder. Parce que si on ne garde pas ça, ces acquis, disons, de l'expérience passée, effectivement, on ne va nulle part. Par contre, il faut, à mon avis, on aurait tout intérêt à sortir de cette opposition des écoles qui s'affrontent pour essayer de réfléchir à comment aujourd'hui on peut faire pour changer. Et donc utiliser aussi, par exemple, ce qu'on peut y avoir de bien chez Marx. Ou plus exactement, mettre, et c'est ça mon intérêt, enfin mon objectif, hein, c'est de mettre la réflexion de Marx en perspective avec une époque. Et ensuite voir quelles peuvent avoir été les limites. De la réalisation de cet objectif, des limites propres à sa propre pensée ou à l'individu lui-même, en contexte historique, etc. Et donc, plutôt que d'avoir son champion et de le défendre contre l'autre, comprendre. Et donc, si on comprend, on s'aperçoit que, par exemple, énormément de choses qui sont dites par Marx sont dites aussi par Proudhon. Même par Bakounine. C'est-à-dire que, par exemple, bon, là, c'est moi, je développe un point de vue libertaire. Mais un marxiste pourrait dire, oui, Proudhon, il a dit ceci, Proudhon, il a dit cela, le petit bourgeois, d'ailleurs, c'est ce dont on va parler tout à l'heure. Mais ils vont faire d'une certaine manière exactement la même chose. Or, ce qui se passe, c'est qu'il y a une exigence, la même exigence de radicalité chez les uns et chez les autres, qui peut se manifester manière, et puis qui, concrètement, les deux ont échoué.
Oui.
Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, bon, Marx, qu'est-ce qu'il a réussi concrètement quand il fallait s'organiser? Ben, il faut que les travailleurs s'organisent de par eux-mêmes. Ben, Proudhon dit la même chose. Il faut qu'ils détruisent les structures qui existent. Très bien, tout le monde a dit la même chose. Et la dictature du prolétariat, qui n'est pas une vraie dictature, bon, mais en arrivant, en fin des comptes, ben, Marx et tous les autres n'ont pas été capables de réaliser un vrai changement, et les anarchistes non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les marxistes, entre guillemets, qui ont échoué dans la tâche pratique de changer le monde, mais aussi les anarchistes. Donc ce qui reste aujourd'hui en tant qu'anarchiste, c'est de mettre en avant, en fait, tous ceux, moi je m'adresse à des militants anarchistes, mais c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça n'a pas marché, d'essayer de faire en sorte que ça marche, plutôt que de rester dans des oppositions, disons, théoriques qui restent stériles. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il faut reprendre des énormes âneries ou des choses qui ont abouti à des massacres épouvantables comme la dictature du prolétariat. Attention.
C'est ce que tu écris déjà en 2003 sur les trois écueils.
Oui.
Dogmatique, de écueil comparatif, et le troisième dont je ne me rappelle plus.
Oui, mais je ne me rappelle moi non plus. J'ai amené mon article.
En 2003, cet article est extraordinaire, parce qu'il résume un peu, justement, on est à la convergence, ce qui est très intéressant.
Et donc c'est un article où j'avais essayé, bon, je disais ça hein, à l'époque, et puis on m'a plus invité, donc je ne l'ai plus présenté. Alors, c'est pas du tout, faut bien savoir, je ne suis pas du tout un marxiste libertaire, hein, c'est une aberration marxiste libertaire.
Daniel Guérin, c'est
Non, parce que Daniel Guérin fait de l'éclectisme. C'est-à-dire que c'est comme ceux qui veulent faire du syncrétisme religieux. Mm-hmm. Ils prennent une bonne idée chez les bouddhistes, ils rajoutent une bonne idée chez les chrétiens, ils les remélangent ensemble, et puis ils disent voilà la meilleure des religions possibles. Mm-hmm. C'est une connerie. Moi, j'analyse ça du point de vue historique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été dites par les uns et par les autres. Et il n'y a pas que Marx et Proudhon ou Bakounine. Par exemple, il sera beaucoup question dans le film de philosophie de la misère et misère de la philosophie. Et Proudhon lit l'ouvrage de Marx et il prend pas mal d'annotations. Dans les annotations, il n'arrête pas de dire « mais ça c'est moi qui l'a dit, ça c'est un plagiat, Marx c'est le ténia du socialisme ». Et alors, toutes les choses où Proudhon dit « ça c'est moi », moi, ça c'est l'historien du mouvement social qui intervient, moi je le trouve dans plein d'autres versions de l'époque. C'est-à-dire qu'il faut bien mettre de côté aussi les égos des uns et des autres. Et c'est quand je dis qu'il faut abandonner nos champions internationaux, c'est ça que je veux dire, pas les idées. Mais le fait de dire bon, « on met en épingle en avant Proudhon », quand on se retrouve avec tout un tas de choses qui ont été dites par d'autres, que Proudhon lui-même y reprend.
Oui.
Par exemple, l'apport de Fourier est capital. Et l'apport de Fourier a été symboliquement valorisé par Marx, etc. Mais en attendant, il s'est construit contre Fourier. Et Proudhon lui-même, il a des relations extrêmement ambiguës avec Fourier. Et tout un tas de choses qui sont dites, c'était Fourier qui les avait dit avant. Et Fourier, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il polémiquait avec Owen. Et il s'accusait mutuellement de plagiat. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment, quand je dis il faut décloisonner, ne pas rester à défendre son champion idéologique, machin, c'est ça que je veux dire. Il faut vraiment comprendre globalement comment les positions des uns et des autres se sont développées, et pourquoi, et dans quel contexte, et l'apport de chacun. Ce qui ne veut pas dire que tous ils ont dit la même chose, et que tous ils ont contribué de la même manière, disons, à cette critique radicale. Mais si on n'intègre pas ça, on reste sur une vision biaisée. C'est Proudhon qui... la revanche de Proudhon, la revanche de Bakounine, le retour à Marx. Bon, bah, ça, c'est bon, il faudrait qu'on arrête ça. Il y a par contre des acquis fondamentaux, que ce soit... Moi, je m'en fous de savoir si c'est Marx qui l'a dit le premier, ou si c'est Proudhon, ou si c'est Bakounine, sans lesquels, aujourd'hui, on ne peut pas avancer. Est-ce que la notion de dictature du prolétariat permet d'aller quelque part? Non. Est-ce que la prise du pouvoir politique permet d'aller quelque part? Non. Point. Je ne veux pas savoir si c'est labellisé Proudhon, Bakounine ou Marx. Parce que vous avez aussi la lecture de Torribed où vous explique que Marx est théoricien de l'anarchisme. Donc, je veux dire, ne restons pas, ne restons pas, ne restons pas, disons, rivés à cette vision trop étroite. Gardons les acquis. Et rappelant comme on le veut, libertaire ou autre, peu importe le terme, radicaux, mais à condition par contre que ce soit clair. Donc on sait que certaines voies ont conduit dans des impasses épouvantables. Donc après tout, je ne veux pas savoir. Si on vient m'expliquer que Marx n'a jamais voulu ça, ben tant mieux.
Oui, n'empêche que pour aujourd'hui, puisque tu parlais de pratique, on se rend compte chaque fois qu'il y a des mouvements sociaux que des choses reviennent. Donc ça veut dire que si on ne déconstruit pas quelque chose, si on ne revient pas à ce qui a fait la racine de la démocratie prolétariat, on va même sans le vouloir, on va reproduire les mêmes mécanismes.
Bien sûr.
Alors c'est important aussi de chaque fois qu'il y a une pratique et de rester dans la pratique, mais de voir ce que
bien sûr,
comment non, mais on peut la penser pour que justement on ne retombe pas dans les mêmes écoles sans le vouloir, parce que je ne crois pas que,
bien sûr, non, mais,
que les gens aient voulu la dictature telle qu'elle était au départ, en 17.
Mais moi je suis 100% d'accord avec ça et c'est ce que je cherche à faire. Quand je j'ai un peu des difficultés avec des camarades qui ne comprennent pas ce que je fais. C'est-à-dire que pour moi, il y a des engagements politiques et il y a un travail historique. Un travail historique à des visées qui se veulent, entre guillemets, scientifiques, avec toutes les limites de la notion de science pour l'histoire. C'est-à-dire que moi, je ne crains pas de faire désespérer Billancourt. Liberté. Voilà, en gros, je m'en fous, je trouve une connerie, je le dis. C'est-à-dire, j'ai au maximum de faire une histoire téléologique, c'est-à-dire que, qui vise à affirmer qu'il y a une suprématie, un point de vue, etc. Donc je comprends. Et si je, à travers des études, des analyses, ben, je m'aperçois que sur ce point précis, ben, c'est peut-être Marx qui a été plus percutant, je le dirai. Si par contre c'est prudent, mais ça sera prudent. C'est-à-dire que je cherche au maximum à éviter d'avoir une lecture orientée. Et en fait, ce dont je me suis rendu compte, au fur et à mesure que j'avançais dans mes travaux, c'est que c'était la banalité, par exemple, des idées anarchistes. C'est-à-dire que, à toutes les époques, partout, tout le monde a dit « mais l'anarchisme, c'est vraiment ce qu'il y a de meilleur ». Et ensuite, il y a des contradictions. Par contre, parce que quand on passe à des pratiques qui permettent de réaliser l'anarchisme, c'est là qu'il y a un désaccord. Et moi, j'ai démarré avec la Troisième République, et plus le temps passe, et plus je remonte en arrière. Au début, aux années 1820-1830, c'est parce que ce sont véritablement des moments fondateurs où on voit surgir pratiquement simultanément toutes les options possibles. Et ça, c'est quelque chose qui a été souvent négligé, justement à cause d'une certaine lecture totalement fausse du marxisme. C'est-à-dire que le marxisme serait venu et qu'il y aurait une rupture par rapport au socialisme utopique, etc. Et d'une certaine manière, les anarchistes, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils emboîtent le pas en disant tout le reste, c'était des précurseurs, etc. Mais enfin, les idées anarchistes sont apparues. Et maintenant, le prolétariat éclairé, les masses populaires vont pouvoir résoudre le problème. Et c'est... Alors, ça n'a pas les mêmes conséquences, puisque les anarchistes n'ont jamais été au pouvoir, ils n'ont pas pu mobiliser des bataillons entiers, mais au fond, ça revient un peu au même. C'est-à-dire qu'on nie ce qui était avant, et on réduit toute l'histoire de l'évolution des idées sociales à un combat entre Marx, Bakounine, c'est Ombre et Lumière, ou Saint-Georges et le Dragon, et puis on inverse les rôles. Je vais dire, le dragon qui est terrassé, c'est l'hydre anarchiste ou l'hydre du marxisme. Tandis qu'il y a vraiment une richesse extraordinaire de cet élan du socialisme au sens large qui se manifeste et dont se nourrissent Marx, Proudhon, Bakounine, et qui ne sont absolument pas isolés et qu'il faut absolument comprendre. Et la thèse que je développe d'anarchisme et changement social, au fait, elle a... C'est ça, c'est pas autre chose. C'est-à-dire que, en même temps que naît un mouvement socialiste, social, ouvrier, s'affirme aussi en même temps et quasiment simultanément plusieurs manières qui sont tantôt opposées, tantôt complémentaires, d'envisager le changement social d'emblée. Et que, en fonction ensuite de la situation du moment, du rapport de force, etc., il y a plutôt une conception qui a tendance à l'emporter plutôt qu'une autre. Et que cela, c'est valable aussi pour l'anarchisme. C'est valable aussi pour la plupart du socialisme. C'est-à-dire que, moi je parle d'insurrectionnalisme, de syndicalisme et d'occasionnisme réalisateur comme des types idéaux. Et donc, à partir de ce type idéal, ben, on voit comment, ben, dès le départ, ces idées, ces pratiques telles qu'elles sont élaborées, eh ben, apparaissent simultanément. Simultanément, il y a les luddistes qui veulent détruire des machines et qui utilisent vraiment la violence insurrectionnelle. Et en même temps, il y a ben, les gentils travail, coopérateurs. Hein. Non, moi je parle de 1820, 1830.
Ah, tu parles vraiment de cette époque.
Du début. C'est-à-dire que dès le départ, il y a ça. Et donc, bien souvent, ensuite, la société évolue, donc on ne peut pas parler de syndicats modernes dès 1830, mais bien évidemment, ça serait là un contresens. Mais par contre, c'est ces idées qui s'affirment pratiquement simultanément et qui ensuite, elles évoluent. Et il faut absolument les prendre en compte pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et la manière comment ensuite ça peut évoluer dans le temps. Et donc c'est plutôt que d'avoir une démarche idéologique, dogmatique ou téléologique, moi j'ai une démarche compréhensive. Je vais essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et c'est dans ce sens-là que je ne veux pas enfermer les progrès des combats sociaux dans un combat entre deux chefs.
Voilà. Oui, c'est comme, je suppose que c'est comme pour toutes les formes de pensée. Un art, par exemple, à une époque, on ne retient que ceux qui ont fait des œuvres les plus marquantes. Alors que c'est une effervescence généralisée, qu'il y a des tas de Baudelaire, de petits Baudelaire, ou de Flaubert, de petits Flaubert, etc. Et qu'à un moment donné, il y en a qui synthétisent ça et on ne retient que ce qui s'est fait de plus puissant sur le moment. Mais,
moi, quand je me suis mis à travailler il y a 25 ans, autour de 48, moi j'étais. Vraiment frappé, incroyablement frappé par la richesse. C'est-à-dire que tout avait été déjà dit, ou presque. Pas tout à fait dans la même manière, etc. Et que souvent, par exemple, les anarchistes n'ont fait que reprendre, mais tel quel, dans le bien ou dans le mal, tout un tas d'oppositions, où j'ai cité Fourier, mais il n'y a pas que Fourier. Il y a tout un tas d'autres auteurs à qui on a emprunté des raisonnements, etc., et qui ont nourri ensuite même les courants de pensée les libertaires. Et donc l'anarchisme, de même que le marxisme, il ne naît pas, il n'y a pas une génération spontanée qui surgit à un moment X de l'histoire et qui est menée par des grands penseurs. Ce sont des pratiques émancipatrices qui sont mises en place, testées, élaborées, amendées, toute une myriade de militants de base, etc., et aussi par une myriade d'auteurs qui cherchent à interpréter ce mouvement. Et par exemple, le grand mérite de Marx, c'est que lui, il avait les idées beaucoup plus claires que d'autres. Voilà, ça, c'est un mérite énorme de la part de Marx, qui le rend d'ailleurs arrogant. Et lui, il n'arrivait pas à comprendre pourquoi des personnes qui lui arrivaient même pas à la cheville avaient du succès, tandis que lui, qui avait vraiment une conscience des choses, et c'était vrai, il voyait les choses d'une manière plus précise que d'autres, et bien lui, personne ne s'en occupait. Et ça lui donnait les boutons. Mais il faisait des crises, il somatisait. À mon avis, là, il ne faut pas aller chercher midi à que, et sous son côté mauvais, c'était à cause de ça. J'ai une clé psychanalytique par rapport à ça. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne pouvait pas piffer les Français. Pourquoi il n'aimait pas les Français? Parce que c'était des rats d'auteurs. La République, la France, la nation, la ceci, nous allons régénérer le monde entier et tout. Bon, tu dis avec quoi? Avec un discours qui était totalement creux, en disant oui, allons nous adresser à la bourgeoisie, etc. Parce que par exemple, Fourier, c'est bien gentil, mais il attendait le mécène qui finance la réalisation de son objectif. Bon, et là, Marx, et les disciples, c'était encore pire. Je veux dire, ils étaient en train d'attendre qu'on leur donne des sous. Owen lui-même, il s'adresse à la bourgeoisie pour dire aidez-moi à réaliser mes projets. Donc il y a tout un tas de choses comme ça qui font dresser le poil sur la tête à Marx de l'époque. Et il a raison, puisqu'il voit tout de suite les limites. C'est-à-dire que d'un côté, il prend conscience de la radicalité de ses projets. Peut-être mieux que les autres, et en même temps il est scotché par une pratique qui est très en deçà et qui reste prisonnière, par exemple, de la Révolution française, de la suprématie de la France, des choses que qui restent encore un peu aujourd'hui, mais que ça nous fait sourire, mais qu'à l'époque c'était carrément la France qui était en tête de l'émancipation du genre humain. Bon, des représentations comme ça, donc il y a toutes les nations qui sont placées derrière.
Et par rapport à ce rôle de la bourgeoisie, est-ce que c'est pas la Commune de Paris qui a donné la limite de ce qu'on pouvait attendre de la bourgeoisie? Des gens comme Reclus, par exemple, qui à ce moment-là vont comprendre qu'on ne peut plus s'appuyer sur
la bourgeoisie. En fait, la cassure, parce qu'il y en a eu plusieurs de cassures, la vraie cassure, c'est juin 48. C'est la répression de quand on réprime le soulèvement des ouvriers des ateliers nationaux. C'est là qu'il y a vraiment une cassure. Il y a un avant et un après, en termes symboliques.
C'est l'évolution de 48, c'est vrai, ont été un peu oubliés.
Ah non, mais c'est juin 48, même Proudhon. Alors le problème, c'est qu'il y a une cassure qui est symbolique, qui se retrouve par exemple au niveau des chansons. des auteurs que jusque-là ils exaltaient la République dans leur poésie, etc. Je vais en citer deux, Déjac et Potier. Potier, c'est quand même l'auteur de l'International, n'est-ce pas ? Et Déjac, c'est quand même lui qui a inventé le mot libertaire. Bon, donc c'est pas des personnes n'importe qui, donc ils écrivaient, ils étaient poètes. Avant, y a une chanson de Potier dans laquelle il se moque du drapeau rouge. Il dit ça doit être la couleur des hommes sous. Bon. Et alors là, il y a juin 48, la répression de la bourgeoisie, et donc là, il y a vraiment une cassure, quelque chose qui se passe. Même si, disons, les conséquences pratiques de ça, effectivement, il faut attendre la Commune. Et encore. Et là, justement, l'historien, il intervient pour montrer toutes les difficultés qui peuvent exister. Mais cela est valable aussi avec le concept de nation. L'internationalisme, qu'est-ce qu'il faut entendre par l'internationalisme, la République, est-ce qu'on peut continuer à se réclamer dans la République ou pas, la démocratie, est-ce qu'il n'y aurait pas des fractions de la bourgeoisie démocratique avec lesquelles, malgré tout, on pourrait travailler ensemble. Mais ça, c'est les vraies questions qui se posent. C'est les vraies questions qui se posent sur un siècle. Voilà, et qu'aujourd'hui, bon, on ne peut pas reformuler tout à fait de la même manière, mais qui ont alimenté véritablement des débats et qui ont constitué à un moment donné des véritables points de rupture. Par exemple, moi je pense que le vrai point de rupture au sein de l'Association internationale des travailleurs, entre les bakounistes et les autres, c'est l'action politique. Mais non pas parce que le Bakounine pensait qu'il ne faisait pas de la politique. Il faisait de la politique antipolitique. Mais quand il disait qu'il fallait refuser la politique, c'était ne pas se présenter aux élections, parce que si on se présentait aux élections, on était obligé de collaborer avec les forces radicales. Donc il n'y a pas que la critique de l'État qui populaire qui va devenir, etc. Mais il y a véritablement un refus de s'abattardir. Et au moment où il faut affirmer une action autonome de classe des travailleurs, point commun à Marx et à Bakounine et à James Guillaume, à la Première Internationale, eh bien là, les marxistes, ils utilisent des formules, ils mènent avant une politique qui peut conduire à maintenir des formes de collaboration de classe. Et c'est là-dessus qu'il y a une majorité de personnes qui se rallient aux thèses de Bakounine. C'est pas l'anarchisme. Ça, c'est vraiment, ça, c'est des choses importantes. Et donc, paradoxalement, Marx, là, il a peut-être tort, effectivement, de ne pas avoir, effectivement, dénoncé lui-même ça. Et ça, c'est le côté bancal de la doctrine marxiste, du coup. C'est-à-dire que d'un côté, peut dire la même chose que les anarchistes, et dire même Marx l'a dit avant Proudhon et Bakounine, bon à la limite, hein. Et puis d'un autre côté, dans la pratique, avec cette volonté de faire de la politique, et en fait cela conduit à des formes de collaboration, au réformisme, à la social-démocratie, et la seule alternative que les marxistes ont trouvée pour éviter ce piège, c'était la dictature ou le léninisme. Quelle catastrophe!
Sur le prolétariat.
Oui, non, mais c'est ça, vraiment toutes les limites, c'est tout le drame du marxisme. Mmh. Oui, c'est... Mais donc, présenté comme ça, moi, je ne sais pas qui a raison ou qui a tort. Oui, je cherche à me positionner exprès pour qu'on puisse réfléchir. Et c'est-à-dire, mais en fait, là, voilà, là, c'est un gros problème. Donc, aujourd'hui, on va créer le nouveau parti 100% anticapitaliste, machin. Je ne suis pas sûr que dans le contexte actuel on puisse réussir à aboutir à quoi que ce soit.
Voilà, tout à l'heure tu disais tu parlais de l'échec du marxisme et de l'échec de l'anarchisme. Est-ce qu'on peut les mettre sur le même plan dans la mesure où tu parlais aussi de pratiques, de projets? Est-ce que les anarchistes, il y a des échecs des anarchistes, mais c'est toujours sur des projets, sur des expérimentations, sur des expériences révolutionnaires, mais il n'y a pas le même projection sur le long terme comme il y a eu pour le marxisme. Donc, est-ce qu'on peut mettre sur le même plan un échec de l'anarchisme et qu'il faut analyser chaque fois en fonction du contexte et sur des petites expériences? Alors que là, on a quand même une histoire, une longue durée.
Je vais faire de l'autocritique. Non, mais c'est évident. Enfin, moi, je pense qu'il y a une culture politique libertaire qui est toujours d'actualité, vivante, et qui peut servir de matrice, disons, hein, des luttes émancipatrices à venir. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, l'histoire semble avoir tranché là-dessus. Mais, et ça c'est très important, donc moi ce que je voudrais faire comprendre, c'est que c'est pas parce qu'on a raison qu'on va forcément l'emporter. Voilà. Et que c'est pas parce que l'histoire a montré que d'autres modèles alternatifs se sont totalement cassés la gueule. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun trotskiste ou autre qui ose parler de dictature. Mais disons, ils rasent les murs aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a cet échec-là que une espèce de déterminisme historique qui fait que les idées anarchistes seraient amenées à se réaliser. Voilà. Et que, pour toute une série de raisons que je ne peux pas développer puisqu'il faut partir, voilà, et que, qui font que, moi je pense que l'anarchisme de toute manière est destiné à rester minoritaire, à continuer à jouer son rôle de minorité active extrêmement important. Et que donc, il ne faut pas croire que puisque le marxisme et tous les dictatures se sont cassés la gueule, que la voie est libre au triomphe des idées libertaires. Ouh là là, parce que des ennemis redoutables surgissent à chaque moment, et au sein de la société telle qu'elle existe, en même temps elle réactive toujours les critiques anarchistes et les confirme dans leur radicalité, et en même temps elle génère aussi malheureusement le poison qui atténue la portée de ces critiques. Et donc, c'est véritablement, je ne vais pas faire du marxisme à deux balles, c'est une dialectique qui se développe sans cesse. Et si nous, on n'est pas capable, quand je dis nous, tous ceux qui veulent que les choses changent, si on n'est pas capable, dans la pratique, de faire avancer les choses, ce n'est pas parce qu'on a raison qu'on réussira à le faire. Voilà.
Très bien. Alors, juste un dernier truc, Daniva. Tu as fait une distinction à ton propos entre liberté et anarchiste. Comme c'est un truc qui est très récurrent, alors, qui est souvent libertaire, anarchiste, c'est la même chose.
C'est la même chose. Historiquement, anarchisme et libertaire, c'est la même chose. Déjà que reprochait à Proudhon de ne pas être anarchiste puisqu'il n'était pas libertaire, en gros. Donc, donc il le poussait à être 100% anarchiste et donc d'intégrer aussi la notion, par exemple, de liberté de la femme, etc. Et là-dessus, ensuite, il y a les usages. Les usages se sont différenciés. C'est pour ça que, personnellement, si je dois intervenir en tant qu'historien, bon, j'interviens en tant qu'historien, je n'ai pas, entre guillemets, de coloration politique. Par contre, mes idées ont toujours été des idées anarchistes. Et donc, je tiens à utiliser ce terme pour qu'on ne me confonde pas avec d'autres utilisations du mot libertaire qui ne sont pas conformes.
Qui est utilisé maintenant.
Oui. Voilà, qui est tout, utilisé. Voilà.
Tout artiste est libertaire pour peu que.
Voilà, non, moi je préfère.
Envie de faire.
Donc, j'ai beaucoup milité dans le passé, c'est plus le cas maintenant, mais mes idées. Ce que je souhaiterais, disons, que voir réaliser, c'est une société anarchiste. Ça, je n'ai aucun scrupule à le dire. Mais je pense que pour aider peut-être à aller dans ce sens-là, on peut faire aussi le choix d'être tout simplement historien et essayer de faire de l'histoire, entre guillemets, honnête. Essayer de comprendre ce que les uns et les autres ont voulu faire et le faire partager à d'autres. Et que les temps qui courent, c'est déjà pas mal.
D'accord. Bon, merci.
Bon, si vous ne voulez pas en parler, j'en ai marre.